Il est 19h, bienvenue à tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, les débats de Punchline. Mais tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne demandent encore un peu de patience avant l'annonce du nouveau gouvernement.
Retraite à 60 ans, SMIC à 1500 euros net, blocage des prix ou encore retour de l'ISF, l'Alliance de gauche, la NUPES, présente son programme pour les législatives. Ça coince quand même sur l'Europe ou le nucléaire. Dans ce journal, on vous racontera comment des particuliers, comme vous et moi, rachètent des parcelles de forêt pour les préserver. Et puis nous serons à Roland-Garros où le tirage au sort commence en ce moment. Ça risque d'être dur pour les Français.
La tendance météo avec Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Alors la journée de demain sera marquée par encore de la chaleur. Pas partout, c'est moins vrai en bord de mer. Et elle sera aussi marquée par des orages dans le nord du pays. On fait le point à la fin du journal.
Europe 1. À quand le nouveau gouvernement ? Le suspense continue.
Eh oui, des rumeurs, mais toujours pas d'annonce. Dans la cour de l'Élysée, Emmanuel Macron, qui venait de recevoir la première ministre moldave, a justifié cette attente qui se prolonge.
Le travail continue de manière sérieuse, mais ça n'est pas une chose légère. Elle requiert du temps, des échanges de fonds. Donc autant de temps qu'utile et que nécessaire, car il s'agit du gouvernement de la France.
Voilà, quant à la nouvelle première ministre Elisabeth Borne, pour son premier déplacement, elle avait choisi les Mureaux dans les Yvelines. Visite sur le thème de l'égalité des chances.
Oui, elle est chef d'un gouvernement qui n'est toujours pas nommé. Jacques Seret, vous avez suivi Elisabeth Borne. Même message que celui du président. Pas question de se presser.
Oui, c'est absolument ça. Comme le chef de l'État, Elisabeth Borne temporise face aux questions pressantes des journalistes.
Moi, j'ai été nommée il y a quelques jours. Et je vous dis, on ne va pas se mettre la pression de décider là tout de suite maintenant. On veut la meilleure équipe. C'est un choix qui est évidemment important d'avoir une équipe avec les meilleurs talents. Et donc on y travaille. Et évidemment, ne vous impatientez pas.
Aujourd'hui pour demain.
Eh bien vous verrez.
Et si avec le président, la première ministre prend le temps, c'est que la composition de ce gouvernement, loin d'être simple, est encore loin d'être faite. Même si certains futurs ministres ont reçu un appel et connaissent leur affectation, selon nos informations, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne veulent à tout prix un gouvernement paritaire, autant d'hommes que de femmes et à des fonctions équivalentes. Et il y a un problème de femmes. Ils recherchent des femmes. Leur nombre et l'importance des postes attitrés dans un premier temps manqueraient de cohérence. Bref, le couple exécutif a encore du pain sur la planche, ce qui explique cette situation rarissime. Hors période de vacances, il ne devrait pas y avoir de conseil de ministre cette semaine.
Jacques Seret, et lui fera-t-il partie des nouveaux ministres ? Damien Abad, patron des députés LR, est en tout cas pressenti, ce qui n'est pas du goût de Christian Jacob, président du parti, qui lui demande de clarifier sa position et de quitter la présidence du groupe à l'Assemblée. Damien Abad doit annoncer sa décision ce soir.
Il l'a décidé, Hélène, il vient d'annoncer qu'il quittait sa fonction de président du groupe LR à l'Assemblée et qu'il restait un homme de droite mais se mettait en congé de sa famille des Républicains. À gauche, la nouvelle alliance, la NUPES, vous le disiez, présente un programme commun de plus de 650 propositions en vue des législatives.
Oui, malgré des désaccords, écologistes, socialistes, insoumis et communistes ont tout de même réussi à trouver un consensus, Alexis de La Fontaine.
Oui, imaginez Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Julien Bayou et Yann Brossat ensemble sur une estrade pour parler d'une seule voix. C'était encore impensable il y a quelques semaines. Alors sur le fond, le programme est largement inspiré de celui des insoumis à la présidentielle, avec entre autres la hausse du SMIC à 1500 euros ou la retraite à 60 ans. En revanche, aucune évocation des sujets qui fâchent, comme la fin du nucléaire ou la sortie de l'OTAN, des désaccords assumés par Jean-Luc Mélenchon.
S'accorder sur tout, en tout point. Ce n'était pas possible. Donc nous sommes partis avec une ambition très forte, faire mieux que quelques mesures qui auraient réduit notre union à un caractère de pur cartel électoral, mais sans avoir pour objectif, en quelque sorte, une sorte de fusion de tous nos programmes, parce que nous savions que c'était impossible.
Avec ce programme commun en poche, maintenant la cible, ce sont les macronistes, et Olivier Faure n'y va pas de main morte.
C'est quoi le projet des macronistes pour les 5 prochaines années? Eux-mêmes ne le savent pas. Interroger les candidats et les candidates. Eux-mêmes attendent de savoir ce que le chef va dire pour savoir ce qu'il porte même comme message. C'est quand même incroyable.
Bref, entre la NUPES et la Macronie au coude à coude dans les sondages, la guerre est déclarée.
Alexis de La Fontaine. C'est une première à Lille. La préfecture du Nord a sanctionné un propriétaire qui louait un studio dans le centre-ville 100 euros au-dessus du loyer de référence, soit 450 au lieu de 350 euros. Montant de l'amende, 9 000 euros.
Et si certains loyers sont encadrés, Hélène, ils n'échappent pas pour autant à une hausse annuelle indexée sur l'inflation.
Et justement, en cette période d'inflation galopante, plusieurs associations demandent au gouvernement le blocage des loyers. On l'a dit, le futur gouvernement est en cours de constitution, mais cette requête ne restera sans doute pas lettre morte, Élise Dangean.
Oui, Bercy se dit ouvert à toutes les propositions qui permettront de préserver le pouvoir d'achat des Français. La demande de gel des loyers va donc être étudiée et c'est une nécessité pour François Rodriguez de l'association de consommateurs CLCV.
Là, on a une hausse de 2,48%, donc quelque chose qui n'avait jamais été constaté depuis 2009. Donc de fait, oui, nous demandons à ce qu'il y ait d'une part un gel des loyers et qu'il y ait en parallèle une réflexion sur les modalités de mise en œuvre de cette révision des loyers et réfléchir sur la nécessité de concevoir un nouvel indice, ne plus forcément se caler sur la hausse des prix.
Mais l'idée est loin de faire l'unanimité. Trop c'est trop, clame Christophe Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers.
La suppression de la taxe d'habitation a produit les effets qu'on avait malheureusement prédits. C'est-à-dire qu'il y a une explosion des fonciers partout en France. La loi climat et résilience, elle est comme elle est, avec le calendrier hyper contraint et inflationniste qui est imposé aux propriétaires. Donc, c'est pas le moment qu'il y ait encore autre chose, alors que déjà, il n'y a plus de rendement sur les loyers aujourd'hui.
Les bailleurs sociaux sont également vent debout. Ils estiment qu'un gel des loyers n'est acceptable que si et seulement si l'État compense le manque à gagner.
Élise Dangean, le thermomètre a souvent flirté avec les 30 degrés ce jeudi, selon Météo France, avec 38 jours consécutifs au-dessus des normales saisonnières. La France égale le record printanier de chaleur de 2007.
Les grosses chaleurs, la sécheresse, comment vont nos forêts françaises? Question que l'on se pose toute la journée en partenariat avec le journal Le Pèlerin.
Oui, forêt qui recouvre un tiers de notre territoire. De plus en plus d'amoureux des arbres achètent des parcelles. Le but, les préserver de l'exploitation intensive et adopter une exploitation responsable et durable. Des groupements de propriétaires existent un peu partout en France, Maud Descamps.
Oui, c'est le cas de François, 50 ans, bûcheron et gérant d'un parc aventure en Saône-et-Loire. Il y a 3 ans, il a investi 2500 euros dans une parcelle de forêt.
Il me motive de stopper l'exploitation industrielle du vivant et en particulier de la forêt.
À ses côtés, environ 70 autres co-investisseurs, tous habitent la région et défendent une exploitation responsable de la forêt, ce qui n'empêche pas le groupement de vendre du bois, comme le détaille François.
Pour de la charpente, pour du chauffage, au maximum on va prélever 20% du bois présent sur pied.
À quelques kilomètres de Lyon, Florent a créé le groupement forestier Cerver sur le même modèle.
En France, il y a vraiment deux modes de sylviculture. Des propriétaires forestiers particuliers qui n'ont aucune idée qu'ils ont des forêts et qui ne les gèrent pas. Et de l'autre côté, des grosses entreprises qui surexploitent la forêt. Et nous, on veut vraiment se mettre entre les deux et venir exploiter tout en préservant la biodiversité.
Mais face à la flambée des prix et aux tensions sur le marché du bois, ces groupements de petits propriétaires se heurtent de plus en plus aux gros acteurs du secteur qui rachètent des parcelles de forêt à prix d'or.
Maud Descamps.
Allez, une pause Hélène, et puis on va revenir sur ces contaminations de pizza Buitoni et de chocolat Kinder. Deux plaintes ont été déposées aujourd'hui. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve pour la suite du journal de 19h avec Hélène Zellani. Hélène, on a beaucoup parlé des intoxications liées à la consommation de pizza Buitoni et de chocolat Kinder. Place maintenant aux plaintes.
Oui, l'association Foodwatch vient en effet de déposer 2 plaintes au pôle santé publique du parquet de Paris. 7 infractions sont pointées, notamment la mise en danger de la vie d'autrui. Pour Karine Jacquemart, directrice de Foodwatch, Nestlé et Ferrero ont le devoir de s'expliquer.
Ces géants se croient au-dessus des lois, ça suffit, ces scandales alimentaires à répétition, ça suffit aussi l'impunité. Ces entreprises ont des obligations, elles doivent rendre des comptes et on espère également des sanctions dissuasives pour qu'il n'y ait plus ce type de scandale. Nous faisons un appel citoyen puisque nous lançons aujourd'hui en ligne une lettre ouverte, une lettre de soutien que tout un chacun peut signer comme une pétition et que nous mettrons en pièces également jointes à ces plaintes pour appuyer la volonté, pour appuyer la nécessité qu'il y ait enfin de la transparence, enfin de la lumière mise sur les responsabilités de Nestlé et de Ferrero et que justice soit faite dans ces deux cas.
Propos recueillis par Yasmina Katou. Au 85e jour de la guerre en Ukraine, la Russie annonce la reddition de 1730 militaires ukrainiens retranchés dans les galeries du site sidérurgique Azovstal à Marioupol. 80 sont blessés. Difficile de savoir quel sort leur sera réservé. Et puis la prison à vie requise contre le soldat russe accusé d'avoir abattu un civil ukrainien. Premier procès pour crime de guerre en Ukraine. Le jeune sergent de 21 ans a demandé pardon à la femme de la victime. Son avocat plaidera demain.
Direction Roland-Garros, à présent, où le tirage au sort se tient en ce moment même.
Premier grand moment avant le tournoi qui commence dimanche. Vous êtes porte d'Auteuil, Axel May. Et ce qu'on sait déjà, c'est que ce sera compliqué pour les Français.
Oui, oui, car pour la première fois depuis, tenez-vous bien, 1999, aucun Français n'est tête de série. Vous savez, c'est ce statut attribué aux joueurs les mieux classés qui leur permet de ne pas se rencontrer dès le début des compétitions de tennis. Le seul qui pouvait être tête de série, c'est Gaël Monfils, forfait sur blessure. Le mieux classé aujourd'hui, c'est Hugo Humbert. Il n'est que 45e mondial. Chez les dames, c'est une mauvaise habitude prise ces dernières années. Pas non plus de tête de série. Hein. Et la mieux classée, la niçoise Alizée Cornet, est 40e mondial. Bref, le tirage au sort sera compliqué pour les Bleus. La cérémonie vient tout juste de commencer. Elle se déroule dans des bâtiments en meulière, pour la petite histoire, au niveau des Serres d'Auteuil. Sur l'estrade, il y a Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis. Et la question qui intéresse et qui vous intéresse, j'en suis certain, c'est qui sera dans la même partie de tableau que le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, notamment Rafael Nadal, tête de série numéro 5, et le jeune phénomène espagnol Carlos Alcaraz, tête de série numéro 6, pourrait en théorie, un jeudi, affronter le tenant du titre serbe dès les quarts de finale.
Axel May, rendez-vous donc à partir de dimanche et jusqu'au 5 juin sur Europe 1, la radio officielle de Roland-Garros.
Du football, Hélène, Didier Deschamps dévoile sa liste de 24 joueurs à 5 mois de la Coupe du Monde.
Oui, des Bleus qui disputeront 4 matchs de Ligue des Nations. On notera les retours de Karim Benzema et de Benjamin Pavard, la première convocation de Boubacar Camara, milieu de terrain de l'OM, et l'absence de Paul Pogba pour blessure. Mais une autre absence suscite beaucoup de questions, celle d'Olivier Giroud. Écoutez la réponse du sélectionneur.
Là, il joue le titre, tant mieux pour lui. Au mois de mars, il est venu et ça s'est bien passé pour l'équipe de France et pour lui aussi. Je veux, sur ces 4 matchs-là, offrir la possibilité aux autres joueurs offensifs qui sont très performants avec leur club, qui ont eu moins de temps de jeu, de pouvoir justement leur donner la possibilité de s'aguerrir et d'avoir plus de temps de jeu.
Didier Deschamps au micro Europe 1 de Cyril de la Morinerie. Les Bleus disputeront donc 4 matchs de Ligue des Nations du 3 au 13 juin contre l'Autriche, le Danemark et contre la Croatie 2 fois. Vous reconnaissez forcément cette bande originale, celle du film Les Chariots de Feu, sorti en 1981. Son compositeur, le grec Vangelis, vient de mourir à 79 ans. Il avait remporté un Oscar pour cette musique. On lui doit aussi celle de Blade Runner ou de Christophe Colomb avec Gérard Depardieu.
La météo avec Marlène Duret sur cette belle lancée. Demain, encore des orages dans le nord.
Et oui, une nouvelle dégradation avec des averses qui peuvent s'accompagner d'une forte activité électrique, de chutes de grêle. Et les premières averses en matinée tourneront rapidement à l'orage à l'est de la Bretagne, sur la partie nord des Pays de la Loire. En Normandie, le Perche est concerné également. Ce temps agité gagnera ensuite progressivement la Beauce, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et puis le Grand Est. Et encore plus tard en soirée, tout le quart nord-est avec de bonnes rafales de vent. Et puis une fois les orages passés au nord-ouest, de très belles éclaircies reviendront par la Bretagne. Au sud, temps sec, un voile nuageux pour la déco et un soleil radieux des régions méditerranéennes à la moyenne vallée du Rhône et aux Alpes centrales. Pas mal de vent aussi à signaler dans le sillon rhodanien jusqu'au Val de Saône, autrement dit vers la région Rhône-Alpes et en remontant vers le sud-est de la Bourgogne. Il y aura du vent d'autan, du marin. Et à propos du vent marin, c'est vrai que le temps sera propice à la baignade dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, 28 à 33 dans les terres, 22 à 25 sur les plages. Mais attention, les vagues, des vagues de l'ordre de 1,20 m à 1,75 m de hauteur sont prévues dans cette zone du littoral. Ailleurs, 17-24 degrés près de la Manche, le long de l'Atlantique, de la Bretagne, dans les Hauts-de-France. Et puis sur le reste du pays, allez, on reste sur du 27 à 33 degrés jusqu'à 33 à 35 en Auvergne.
Merci beaucoup Marlène Duret. Merci Hélène Zélani. Dans un instant, les débats de Punchline, on reviendra sur la première sortie d'Elisabeth Borne, première ministre. Et puis sur Emmanuel Macron, qui demande un peu de patience, s'il vous plaît, pour la composition du nouveau gouvernement. A tout de suite sur Europe 1.
18h-20h sur Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.